scepticisme scientifique, le balado de la science et de la raison, épisode 122, épisode spécial pour l'anniversaire des 10 ans du 11 septembre 2001.
Donc aujourd'hui je suis avec Jean-Louis Racca, qui donc de l'Observatoire des sceptiques, qui revient sur le balado. La dernière fois qu'il était venu, on avait discuté de psychanalyse, et cette fois-ci, il vient pour nous parler d'un sujet tout à fait différent. Il vient nous parler du 11 septembre 2001. Bonjour.
Bonjour.
Oui, en fait, donc j'y suis. Tu es actuellement le président de l'Observatoire zététique.
Ben, il se trouve oui que pour 2011, j'ai été élu président. J'ai cette lourde responsabilité, mais bon, et cet honneur aussi pour un an, voilà.
Oui, donc récemment, enfin ça fait quelques mois, mais tu as donné une conférence à propos du 11 septembre et des théories de la conspiration qui l'entourent. Qu'est-ce qui t'a amené à traiter de ce sujet-là?
Ben, disons que c'est un sujet qui m'avait intéressé il y a déjà quelques années, quand les... à partir de 2006 environ, hein, quand les premiers films, enfin à ma connaissance, hein, ont commencé à apparaître, hein, par exemple Loose Change, les premiers films, disons, conspirationnistes, hein, qui remettaient en cause ces gens-là appellent la théorie officielle. Maintenant, restera à préciser ce genre de mots. Et puis bon, du coup, quand on a une petite association à Grenoble qui s'appelle Antigone, qui est une sorte de bibliothèque associative et qui nous invite, qui aime bien travailler avec nous, donc qui nous invite à faire des conférences chaque année. Et cette année, bon, ça se bousculait pas pour que des gens de chez nous en fassent. Et je me suis dit, ben, je veux bien essayer de replancher un peu sur le sujet du 11 septembre, à condition que ce soit assez loin dans la saison, que j'ai le temps de me préparer, de bien revoir les choses. Et puis, revoir aussi les choses nouvelles qui avaient pu, parce que des films, il y a eu Loose Change au début, puis depuis il y en a eu d'autres, il y a eu Quest for Truth, il y a eu Zero en particulier de la part de, qui est plutôt venu d'Italie au départ. Et voilà comment les choses se sont enchaînées, et j'ai donné cette conférence le 16 juin dernier.
Voilà. Oui, on sait qu'il est très particulièrement difficile de discuter ou de débattre avec des tenants du 11 septembre, enfin de la théorie de la conspiration. Sur Facebook, tu m'avais dit qu'il y avait des gens, enfin des tenants qui étaient venus lors de la conférence. Comment ça s'est passé?
Ben, disons que j'étais allé moi-même à l'une... disons qu'on était un petit peu... l'association a été parfois sollicitée par Réopen pour participer à des débats. Et en fait, les débats, bon, on a toujours refusé d'y participer parce que les conditions étaient vraiment pas réunies pour que ça puisse se passer. On aurait été, me semble-t-il, hein, seulement des faire-valoir. Et par contre, je suis allé moi-même à une conférence organisée par Réopen à Grenoble au mois de mars. Conférence, je me souviens plus exactement du titre, ça serait facile à retrouver, c'était je crois pourquoi la version officielle ne tient pas ou quelque chose comme ça. Et bon, je me suis félicité d'avoir toujours refusé le débat dans ces conditions parce que finalement ça, il y avait beaucoup trop de la façon dont le débat était mené. Ensuite j'ai eu la parole 2 ou 3 minutes par rapport à au film qui a été présenté avant, et puis ensuite quand une question est posée à nouveau ils embrayent sur d'autres arguments, tout ça, donc ça part un peu dans tous les sens. C'est un petit peu, c'est peut-être méchant de dire ça, mais c'est un petit peu vrai, je crois. C'est de la, il y a beaucoup de propagande, une sorte de mise en condition, et c'est très difficile ensuite. C'est-à-dire, moi, ce que je trouvais difficile dans le cadre d'un débat qui aurait été organisé dans ces conditions, c'était l'idée qu'il va y avoir, 150 points qui vont être exposés dans un film présenté par les conspirationnistes qui, lui, durerait, mettons, 1h30. 150 points d'exposé. Moi, je vais peut-être, si je suis invité au débat, je pourrai en réfuter deux ou trois. Du coup, les spectateurs risquent de repartir avec l'idée que les 147 ou 148 que j'ai pas eu le temps d'aborder sont tous justes. Et donc ça, c'était extrêmement gênant, cette espèce de dissymétrie qu'il aurait pu y avoir entre l'exposé des thèses conspirationnistes et la possibilité matérielle de les réfuter dans ces conditions-là. Donc c'est pour ça que j'avais toujours refusé de participer. Je suis allé à ce débat, je me suis dit, j'ai bien fait de refuser parce que j'ai très peu pu parler. Et par contre, eux sont venus à ma conférence et là, ça s'est passé quand même dans de meilleures conditions parce que, en quelque sorte, ils n'ont pas pu... j'avais la main, donc c'était quand même plus facile de réfuter certains de leurs arguments, quoi, puis de les présenter au public dans toutes leurs conséquences.
Mmh. Oui, ça, c'est un sujet qui revient souvent aux États-Unis. Est-ce que les biologistes doivent débattre les créationnistes et, Eugenie Scott de NCSI, l'organisation qui combat les créationnistes, oui. elle dit toujours, on lui pose tout le temps la question, voilà, je suis un fan de la théorie de l'évolution, je suis un sceptique, est-ce que je dois aller débattre les créationnistes? Elle répond toujours non.
Oui, parce qu'on a l'impression que il s'impose tellement peu de règles qu'il pourrait y avoir dans un débat scientifique, c'est-à-dire apporter la preuve de ce qu'on énonce, ne pas inverser la charge de la preuve, que du coup, ils se font la partie un petit peu trop facile, quoi. Et le débat est vraiment difficile, mais c'est exactement, oui, comme quand on débat avec un créationniste ou avec un négationniste de l'Holocauste aussi, si on n'est pas d'accord sur les moyens à employer, c'est assez difficile, quoi. Hein. Si on peut tous se permettre d'un côté et puis de l'autre, on essaye de s'astreindre à des argumenter de façon précise en citant des sources, en évitant les amalgames et choses comme ça, ça fait un peu deux poids deux mesures et très difficile d'avoir un débat serein et pour qu'il en sorte quelque chose. On peut faire du spectaculaire, mais nous c'est pas spécialement notre objectif, c'est de repartir avec des arguments sérieux, quoi.
Oui, alors dans cette conférence et aussi à la présentation que tu as fait pour l'OZ, quels étaient les points que tu as couverts et dont tu voudrais nous parler aujourd'hui?
Moi, je me suis... La conférence, elle a consisté à essayer d'introduire sur un sujet, disons, neutre, hein, pas sur le 11 septembre, des arguments un peu, hein, montrer comment pouvaient fonctionner certains biais, hein, qui sont repérés par le scepticisme, hein, par exemple le syndrome galiléen ou l'argument d'autorité ou des choses comme ça. Et ensuite,
je crois qu'on n'en a pas encore parlé sur le balado. Alors le syndrome galiléen, qu'est-ce que c'est?
Alors le syndrome galiléen, c'est le fait que quelqu'un qui défend une théorie, disons, en marge du consensus scientifique, pour dire les choses de façon pas trop compliquée, va, un peu à l'instar de Galilée, qui a été persécuté parce qu'il présentait une théorie qui était pas, disons, majoritairement admise à l'époque, quelqu'un qui va présenter quelque chose d'un petit peu marginal, va dire « je suis persécuté comme Galilée » et pour lui ça va être une preuve qu'il a raison, même si il faut aller plus loin pour prouver les choses et pas simplement dire « je suis persécuté ». Ça c'est quelque chose qui est assez souvent employé, hein, c'est parce que, hein, par exemple on retrouve ça chez les conspirationnistes, ils disent « oui on n'accepte pas ce qu'on dit parce qu'on dérange ou parce que... » on est contre tel ou tel homme politique, etc. En fait, non, on peut très bien avoir pratiquement les mêmes idées politiques avec certains d'entre eux, mais pas pour autant accepter leurs affirmations. Voilà. Alors, il y avait aussi un autre argument, donc j'ai dit syndrome galiléen, argument d'autorité, ça je pense que tout le monde voit de quoi il s'agit. Et il y avait aussi quelque chose qui m'a paru très important à présenter, parce que pour confronter deux thèses, hein, là il fallait confronter certaines thèses conspirationnistes à la version qu'on appelle improprement, à mon avis, officielle. C'est le principe de parcimonie des hypothèses en science, et ce qu'on appelle parfois le rasoir d'Occam. Et donc là, pareil, hein, je l'ai présenté sur un exemple affectivement neutre, pour qu'on comprenne bien de quoi il s'agissait. Tu veux que je rappelle un petit peu de quoi il s'agit, pour les gens qui écouteraient pour la première fois?
Oui, vas-y, oui. Ouais.
Alors la parcimonie des hypothèses, c'est un des piliers, disons, hein, de la méthode scientifique. Ça consiste, quand on confronte éventuellement deux hypothèses, à choisir celle qui est la plus... Alors, on dit souvent la plus simple, mais attention, c'est la plus simple épistémologiquement, c'est-à-dire c'est celle qui nécessite, pour expliquer, c'est la plus cohérente, c'est celle qui va permettre d'expliquer un maximum de choses avec un minimum d'hypothèses ad hoc, comme on dit parfois, hein, c'est-à-dire surnuméraire, adapté juste à une situation particulière. Et du coup, quand deux théories sont confrontées comme ça, il faut choisir celle qui amène le moins d'hypothèses surnuméraires, comme on dit parfois, la plus simple, mais épistémologiquement. Et j'ai donc essayé d'appliquer ça, en particulier ensuite, à deux points importants des conspirationnistes, enfin deux affirmations importantes. La première affirmation, c'était la démolition contrôlée des tours jumelles. La tour jumelle aurait été, disons, l'objet de démolition contrôlée, préparée à l'avance, etc. Ça, c'était la première. Et la deuxième que j'ai essayé de réfuter, donc en particulier à l'aide de la parcimonie d'hypothèse, c'est l'affirmation « pas d'avion sur le Pentagone ».
Oui, ben vas-y, est-ce qu'on peut couvrir un peu rapidement les deux premiers, enfin ces deux points, ce serait pas mal, je pense.
Oui, alors, par exemple, la parcimonie des hypothèses appliquée, pas d'avion sur le Pentagone, il s'agissait donc de... j'avais fait un tableau à deux entrées dans lequel je mettais on va tester l'hypothèse, c'est bien un avion qui s'est écrasé sur le Pentagone, c'est l'avion American Airlines 77, hein, comme le dit la version dite officielle, et puis on confronte ça à l'hypothèse, c'est un missile qui a frappé le Pentagone. Et du coup, on essayait de répondre, pour confronter ces deux hypothèses, on essayait de voir quelle est celle qui permet le mieux de répondre aux questions. J'avais préparé donc 11 questions, j'en cite quelques-unes, peut-être pas les citer les 11. Donc, comment ont été couchés les lampadaires sur une largeur de 25 mètres? Qu'ont vu les dizaines de témoins qui ont identifié un Boeing d'American Airlines? Pourquoi aucun ne parle de missile, hein, parmi ceux qui ont été interrogés immédiatement, évidemment? Que sont devenues les personnes à bord du vol? Voilà. Qui a appelé depuis l'avion pour raconter le détournement? D'où sortent les boîtes noires? Comment ont-elles pu corroborer le signal radar? Il y avait aussi, en dernière question, pourquoi un trou de 5 mètres, puisque les conspirationnistes insiste souvent sur le soi-disant trou de 5 mètres. Alors c'est vrai que le trou est pas forcément comme on attendrait qu'il soit, s'il a été frappé réellement par un avion de 38 mètres de diamètre. Voilà. Alors, si on confronte les deux thèses, l'avion d'American Airlines 77 et le missile, pour répondre à chacune de ces questions, toutes les questions, l'hypothèse A77 permet de répondre très facilement à 10 questions sur 11, et l'hypothèse missile oblige vraiment à des raisonnements, disons un petit peu abracadabrantesques, pour répondre à ces questions-là. Il n'y a qu'une question, éventuellement, où l'hypothèse missile permet de répondre peut-être plus facilement, au moins dans un premier temps, c'est pourquoi un trou de 5 mètres. C'est vrai que si c'est un missile, on explique mieux qu'il y a un trou de 5 mètres, plutôt que si c'est l'avion. Voilà, donc là, sauf que, ça c'est la première idée qui nous viendrait à l'esprit, sauf que il est facile de trouver des vidéos sur Internet d'un essai d'un avion qui se crasherait contre une centrale nucléaire, et cette expérience a été faite, et on voit l'avion donc qui percute un mur en béton armé, et en fait, l'avion, il ne reste pratiquement rien, quoi. Le mur, il bouge à peine, Et il n'y a même pas de trou dedans. Donc, même l'hypothèse, même le trou de 5 mètres peut, à la rigueur, être pas si surprenant que ça avec l'hypothèse du Boeing d'American Airlines. Voilà. Donc, du coup, comme 11 questions sur 11 peuvent être résolues avec American Airlines et une seule avec l'hypothèse missile, bah, du coup, il faut choisir, si on confronte les deux, il faut choisir l'hypothèse du vol American Airlines.
Oui, alors pour la question de l'explosion, enfin de la destruction par des tours par des explosifs.
Alors pour la question de la destruction des tours, en fait, c'était l'appareil. Hein, je confonds donc la démolition contrôlée et l'hypothèse des avions. Hein, et les 5 questions que je posais, c'était pourquoi la chute commence-t-elle par le haut? Pourquoi le flambement des colonnes, c'est-à-dire ces colonnes qui commencent à plier un petit peu par le milieu juste avant l'effondrement, pourquoi le début de l'effondrement de la tour numéro 2 se fait-il en biais? On voit très clairement des vidéos où la tour penche quand même gravement d'à peu près 30 degrés par rapport à la verticale. Ensuite, pourquoi des bruits d'explosion? Et puis, pourquoi aucun témoignage de préparatif d'une démolition contrôlée? Donc là encore, si on confronte l'hypothèse des avions et l'hypothèse démolition contrôlée, du coup, à part les bruits d'explosion qui permettent d'étayer la démolition contrôlée, c'est l'hypothèse avion qui permet de répondre de façon beaucoup plus naturelle à toutes ces questions. Et puis, les bruits d'explosion, dans le cas de l'hypothèse avion, c'est vrai que rien ne ressemble plus à un bruit d'explosion que un bruit de... D'abord, des explosions, probablement, il y en a eu, parce que dans les bureaux, des choses ont pu... Il peut y avoir des bouteilles de gaz, éventuellement, des réchauds, des choses comme ça. En plus, l'effondrement de la tour sud a dû faire énormément de bruit. Pour les gens qui étaient dans la tour nord, c'est normal qu'ils aient eu l'impression... La tour sud s'est effondrée en premier, je le rappelle. Les gens qui étaient dans la tour nord, donc du coup, les pompiers, etc., qu'ils aient eu l'impression d'entendre des bruits d'explosion, c'est pas très étonnant. Pas besoin d'aller chercher une démolition contrôlée. Il y a vraiment trop d'invraisemblances pour la démolition contrôlée. Alors, quand j'ai dit ça, ensuite, quand le débat a commencé lors de ma conférence, les gens de Reopen ont dit « Ah oui, mais on pourrait en poser d'autres, des questions qui mettent... qui prendrait un petit peu en défaut cette hypothèse. Alors bon, c'est sûr qu'on pourrait se mettre autour d'une table et faire des listes de questions et puis voir toujours confronter les deux hypothèses. Mais en même temps, bon, il faut aussi se mettre d'accord sur sur la nature des questions. Ça me rappelle une partie du film Loose Change où à un moment on voit le film présente une trace sur la pelouse devant le Pentagone et le film dit oui, comment expliquer que sur cette photo prise 4 jours avant on voit une trace dans l'herbe précisément à l'endroit où la chose qui a frappé le Pentagone est passée. Alors évidemment, si on compare une trace dans l'herbe avec ce qu'on dit les boîtes noires ou le fait que les passagers ont tous disparu, c'est quand même c'est pas très sérieux, quoi. Il y a plein de questions qui sont plus pertinentes que d'autres.
Oui, mais d'un point de vue plus général, ce qui est toujours frappant avec les conspirationnistes, c'est que pratiquement c'est une dérive de la rationalité. Pratiquement, ils ont un sens hyper critique. Les sceptiques ont un sens critique, mais finalement, pour eux, dans ces mouvements un peu, enfin il y en a d'autres évidemment, mais comme les créationnistes, etc., il y a une sorte de sens hyper critique. C'est comme si la raison déraillait. Est-ce que tu as des réflexions de ce côté-là? Qu'est-ce qui fait que tout d'un coup les gens vont s'embarquer dans ce genre de choses?
Alors, ce qui fait qu'ils s'embarquent dedans, je sais pas trop. Je pense qu'il peut y avoir des motifs politiques. Bon, on peut vouloir, disons qu'on a des choses à reprocher au gouvernement américain, donc on pense qu'il a pu organiser, y compris une chose pareille. Alors, je peux comprendre qu'on arrive à ce genre de raisonnement. Le problème, c'est que même des gens très très impliqués contre le gouvernement américain, là, par exemple, je pense à Jean Bricmont, je pense à Noam Chomsky, ils sont pas du tout d'accord avec les théories conspirationnistes. Enfin, ils les trouvent, ils les ont réfutées de façon convaincante. Et on peut être contre sans pour autant tomber dans les théories du complot. Hein. Mais ça peut être peut-être une des motivations. Et mais je pense en fait que la plupart des conspirationnistes sont bon, peut-être que certains poursuivent des buts je sais pas, il peut y avoir de l'antisémitisme, des choses comme ça, mais je pense pas que ce soit foncièrement majoritaire. Je pense simplement qu'à un moment ils peuvent oublier des choses fondamentales de la méthodologie scientifique, quoi. En particulier le fait que la méthode scientifique, il faut quand même ce qu'on appelle le scepticisme initial sur les faits, quoi. Il faut pas avoir sa conclusion avant de commencer à chercher. Or là, on a l'impression que Réopen se présente, par exemple, hein, je parle d'eux parce que je les connais peut-être un petit peu mieux, et ce sont pas des gens du tout antipathiques, hein, c'est pas le problème, mais je pense que la façon dont ils se sont organisés avec cette volonté de réouvrir à tout prix une enquête parce qu'ils considèrent que celle qui a été menée a été bâclée. On a l'impression que tant que cette enquête n'arrivera pas aux conclusions que eux ont fixées à l'avance, ben ça voudra dire que l'enquête est pas bonne. C'est pas une bonne façon de poser le problème. C'est pas comme ça forcément qu'on peut établir les faits.
Mais pour c'est un peu revenir sur le syndrome de Galilée, il y a pas une sorte, j'ai l'impression que dans ces mouvements-là, il y a un peu une détestation de la du consensus scientifique ou du tu vois, c'est vrai parce que c'est pas l'opinion consensuelle ou que c'est pas
Oui, alors ça me rappelle ce que disait, j'ai entendu dire ça par Jean Bricmont il y a pas très longtemps, il dit que finalement, la science est un peu victime de son succès, c'est-à-dire que la science a eu beaucoup de succès, entre le 18e, 19e, 20e siècle, parce qu'elle s'est opposée, elle a permis de s'opposer à des pouvoirs établis qui étaient parfois basés sur des croyances ou des superstitions. Mais du coup, maintenant, on jette un peu... Enfin, elle-même est devenue un objet, disons, de controverse. Et c'est vrai que si on applique ce qu'on peut appeler parfois la méthode hypercritique et le doute pour le doute, la science a permis de douter à certains moments de superstitions ou de croyances, mais le doute tel qu'on le conçoit, en particulier par exemple à l'Observatoire critique, ne doit pas être une fin en soi. Il y a des façons aussi... La science, à mon avis, c'est fait pour établir les faits, et Et si on considère le doute vraiment comme une fin en soi, on risque de ne pas établir les faits. Il y a, par exemple, des déraillements dans les méthodes des conspirationnistes qui s'apparentent un petit peu à ce que font parfois les négationnistes. Alors là, au niveau de la méthodologie, je dis pas au niveau des résultats, mais au niveau de je suis sûr que la plupart des conspirationnistes sont pas d'accord avec les résultats, par exemple, que prétend montrer quelqu'un comme Pourrisson, mais s'ils s'intéressaient au même objet d'étude, malheureusement, ils arriveraient probablement au même résultat, parce que ils appliquent un petit peu les mêmes méthodes, c'est-à-dire qu'ils montent en épingle des choses qui sont marginales, ils confondent les débats qu'il peut y avoir entre tenants des thèses officielles sur des points de détail, comme une remise en cause des faits, des choses comme ça, quoi. Je peux éventuellement pour en dire un peu plus sur ces méthodes, se focaliser sur des points de détail, exploiter les points faibles d'une thèse, et puis surtout ce qui est peut-être le pire biais, c'est l'inversion de la charge de la preuve, c'est-à-dire que souvent leurs arguments sont de l'ordre de montrez-moi que c'est faux ce que je dis, alors que non, c'est pas au tenant de la thèse dite officielle de montrer qu'est-ce que disent les conspirationnistes est faux, c'est aux conspirationnistes d'apporter suffisamment de preuves pour montrer que ce qu'ils disent est vrai. Il y a aussi l'idée que parce que parfois les experts peuvent se tromper sur un point particulier, mais C'est pas parce qu'ils se trompent sur un point particulier qu'ils vont se tromper sur tout. Or, souvent, c'est un peu ce qui est sous-tendu par les affirmations des conspirationnistes. C'est un sous-prétexte que on a pu se tromper sur un point particulier dans les thèses. Tout est faux. Voilà. Ou des fois, ils utilisent certaines citations hors contexte pour étayer leurs arguments. Hein, par exemple, toujours dans le film Loose Change numéro 2, là, je dirais exactement à quel endroit c'était sur le site. À un moment, il y a un médecin légiste qui arrive sur le lieu du crash du dernier avion, celui qui s'est crashé dans un champ de Pennsylvanie, et il dit « J'ai arrêté de faire médecin légiste au bout de quelques minutes parce qu'il n'y avait aucun corps ici. » Sauf que ce qu'il veut dire quand il dit ça, c'est qu'il n'y avait aucun corps entier, quoi. Il y avait des débris, il y avait des morceaux, il y avait des os, des choses comme ça. Or, évidemment, si on sort cette affirmation de son contexte, on va pouvoir montrer à peu près tout et n'importe quoi. Mais c'est pas comme ça qu'on établit les faits, quoi. Et malheureusement, c'est ce que je disais, c'est que si leur objet d'étude, c'était par exemple l'Holocauste, avec des raisonnements comme ça, on pourrait aboutir à la négation aussi. Parce que quand on a aussi peu d'exigences envers ses propres arguments, on risque de dérailler assez vite au niveau des conclusions.
Ils réfléchissent souvent, les conspirationnistes, ils pensent souvent en se disant on n'a pas de preuve de ce qu'on avance, mais c'est ça la preuve de ce qu'on avance. L'absence de preuve est la preuve de la conspiration.
Ouais. Tout à fait. Ouais. Or, en zététique, il y a une facette qui dit l'absence de preuve n'est pas la preuve de l'absence. On l'oublie un peu souvent.
Ouais. Non, c'est vrai que parce que.
C'est plutôt l'inexistence de la preuve n'est pas la preuve de l'inexistence, plus exactement. Ça veut dire ça.
Mais enfin, c'est vrai que d'un point de vue purement rationnel, je me demande toujours, je me demande souvent, qu'est-ce qu'il va faire. C'est vrai qu'on essaie toujours aux gens, dans le mouvement sceptique ou zététique, d'enseigner aux gens la pensée critique, et puis après il y a des dérives de cette sorte-là, de la pensée hypercritique, et c'est comme si il fallait un peu, on était sur une corde raide, quoi. C'est vrai que face à ces gens, enfin quand on essaie d'expliquer un peu c'est quoi le scepticisme rationnel, je veux dire comment faire passer cette idée aux gens, quoi, que par exemple, qu'il faut garder une bonne mesure dans les choses, quoi, et qu'il faut éviter aussi une sorte de scepticisme pathologique, enfin je ne sais pas comment on peut appeler ça, mais
disons que il faut pas que le doute devienne une fin en soi. Il faut pas que c'est pas parce que la science à un moment a permis de bousculer les pouvoirs établis et qu'aujourd'hui elle est devenue en quelque sorte aussi peut-être un pouvoir établi que du coup faudrait chercher à tout prix à la bousculer. Tout dépend quel est notre objectif. Si notre objectif c'est d'établir les faits, la science et le scepticisme qui évite les biais sont quand même les meilleurs moyens encore pour établir les faits. Encore faut-il que ce soit l'objectif. Or, il arrive que parfois dans certains débats sur des forums, on entend des conspirationnistes dire que leur objectif c'est de torpiller la thèse officielle. Si torpiller la thèse officielle c'est une fin en soi, on cherche plus exactement la même chose, quoi. Je veux dire, moi mon objectif c'est pas ça, c'est essayer de savoir ce qui s'est passé. C'est un petit peu différent.
Mais ça, là, ce que tu décris, c'est aussi quelque chose qu'on retrouve beaucoup, c'est l'idée qu'ils sont un peu des. Parce que c'est le titre d'un bouquin qui vient de sortir, mais c'est sur le mouvement anti-vaccination. Mais ça s'appelle. C'est sur les négationnistes du réchauffement climatique, qui s'appelle des marchands de doute. Hein. Ils essaient juste de générer dans le grand public une sorte de doute flottant, comme ça, peu importe la. Enfin, la validité des arguments, oui. Tout est prêt.
C'est-à-dire après, bien sûr, il faut. C'est ce que je disais. Tout dépend des objectifs. Si c'est de vendre beaucoup d'autocollants, de livres, de choses comme ça, c'est pas exactement la même chose que de vouloir établir les faits, quoi. Évidemment, si c'est d'avoir beaucoup de visites sur un site internet donné, on n'est pas obligé d'écrire des choses factuelles.
Bah finalement, c'est peut-être la différence classique en philosophie entre les sophistes et les enfin l'approche vraiment philosophique quoi. Finalement, tout ces théoriciens du 11 septembre, c'est de la rhétorique quoi, non?
Oui, bien sûr. Hein, il y a beaucoup de biais de rhétorique. Hein, on peut pratiquement, si on prend la liste des sophismes qui sont répertoriés, par exemple par le dictionnaire sceptique, hein, qui est sur le site des sceptiques du Québec, par exemple, traduit en français, on va les retrouver presque tous. On va retrouver y compris un qu'on cite pas souvent, et c'est le sophisme du tireur d'élite texan. Alors, le tireur d'élite texan, c'est un tireur d'élite, hein, donc il tire une balle dans un mur, alors ça fait une marque, et ensuite il va dessiner la cible autour. Voilà. Et c'est un petit peu ce qui s'est passé, il me semble, quand les conspirationnistes disent « Ah, mais le 11 septembre, les services secrets américains étaient au courant. » Et en fait, alors, des informations hein, sur des choses qui se préparaient, bon, ça, c'est clair, ça peut... C'est que c'est vrai, mais cela dit, qu'est-ce qu'ils pouvaient faire pour s'y opposer, quoi? Hein, on savait qu'éventuellement, il pouvait y avoir... des détournements d'avions, mais en plus on savait pas exactement si ça allait être sur des bâtiments ou des choses comme ça, même s'il y avait eu des affirmations, l'opération Boyinka, mais c'était moins précis quand même que ce que veulent bien dire les conspirationnistes, et c'était moins précis que ce qui s'est effectivement passé le 11 septembre. Mais comment pouvait-on parer, quoi? Comment pouvait-on parer à ça? Est-ce qu'il fallait, à partir de l'opération Boyinka, c'est quelque chose qui date de la fin des années 93-94, par la milieu des années 90, alors est-ce qu'il fallait, à partir de ce moment-là, fermer le World Trade Center? Parce que c'est facile de dire après coup voilà ce qu'il aurait fallu faire, mais les mesures à prendre auraient été tellement coercitives que c'était juste impossible, quoi. En plus, les services secrets, il est probable que des informations, elles en ont des quantités absolument astronomiques. Et dire après coup, ben oui, celle-là, il l'avait, ben c'est un peu le tireur d'élite texan, quoi. C'est-à-dire, c'est faire une cible après coup autour d'un point qui était là un petit peu par hasard, quoi. Alors que la cible, il aurait fallu qu'elle soit tracée, évidemment, avant. C'est-à-dire qu'en fait, parmi toutes les informations, une autre façon de dire les choses, c'est que parmi toutes les informations que le FBI et la CIA devaient avoir, bah celle-ci s'est réalisée. Il était extrêmement difficile, à mon avis, de la parer, sauf à prendre des mesures absolument invraisemblables, fermer tous les immeubles de plus de 5 étages dans tous les États-Unis, des choses comme ça. Mais en plus, c'était une information, mais il devait avoir 10 000 autres informations qui, elles, ne se sont pas produites et qui se produiront peut-être un jour dans 5 ou 6 ans ou que sais-je. Mais en fait, le but, c'est de savoir laquelle va se produire et quand, quoi, c'est ça. Donc quand on dit qu'il savait, alors oui, il savait, mais dans ce sens-là.
Oui, toujours moi je réfléchissais aux dernières interactions avec des conspirationnistes que j'ai eues récemment sur le net, mais un truc qui me frappe toujours aussi, juste pour avoir ta réaction, pour terminer sur ça, c'est que, bon, moi évidemment je suis pas un spécialiste des théories de la conspiration, encore, enfin, on a tous ces dadas, mais moi je suis plutôt ufologie et pas parapsychologie, quoi, mais c'est assez marrant, je discute avec des ufologues et très souvent, c'est des conspirationnistes aussi. Enfin, c'est normal parce que l'ufologie, ils vont dire oui, ben le gouvernement, enfin la NASA nous cache la vérité parce que la NASA doit savoir des choses. Elle doit forcément savoir qu'il y a des soucoupes volantes et donc elle nous cache les choses. Et alors évidemment, ils vont être conspirationnistes autour d'autres choses comme le 11 septembre de manière, enfin, il y a une sorte de proximité d'idées, quoi. Et aussi récemment. Un tenant de la parapsychologie qui a un podcast Skeptico là que j'écoute récemment, c'est un gars qui est vraiment pro parapsy, enfin bon, ce que je peux à la limite encore ce que je peux comprendre, mais alors il a un discours très antiseptique, mais récemment il s'est mis à faire des épisodes dans son podcast consacré à la parapsychologie sur les théories de la conspiration autour de John Fitzgerald Kennedy du 11 septembre. Et donc on retrouve aussi, alors là il y a pas de lien évident entre la parapsychologie et les conspirationnismes, mais il y a une sorte d'affinité intellectuelle entre ces domaines qui est assez étonnante, comme si quand on adoptait à un mode de pensée dans l'ufologie ou dans la parapsie ou dans ce genre de sujet, hop, on a tendance aussi à choper la conspirationnité aiguë en plus, quoi. Qu'est-ce que t'en penses?
Oui, ben disons que c'est le problème des biais de raisonnement, quoi. Puis ensuite, il y a peut-être un phénomène de groupe aussi qui fait que les gens s'émulent, il y a une certaine émulation. Et puis Internet aujourd'hui peut-être favorise aussi ce genre de choses. C'est très facile de fabriquer une photo, de la faire circuler, éventuellement de la trafiquer un peu, d'oublier quelle est sa source. Et ensuite, ce qui me semble y avoir de commun dans tout ça, c'est peut-être le côté, enfin le, il y avait une expression qui me paraissait très bien choisie dans un numéro de Science et Pseudo-Science consacré, un numéro hors série là consacré aux théories du complot et en particulier à celle du 11 septembre. Disait les conspirationnistes ont un rapport très particulier à la preuve. Et je crois que c'est ça. À partir du moment où on met pas la barre suffisamment haut quand on veut prouver quelque chose, et en particulier on oublie parfois le proverbe, disons, sceptique qui nous dit que une affirmation extraordinaire nécessite une preuve plus qu'ordinaire, du coup on risque de très vite tomber dans des conclusions qui sont qui peuvent être très variés, mais tout aussi peu étayés.
Très bien. Je t'ai interviewé une fois sur la psychanalyse, maintenant sur le 11 septembre. Alors, c'est sur quoi tu vas travailler l'année qui vient, tu le sais déjà?
Non, j'ai pas vraiment d'idée particulière là, mais bon, il y a bien quelque chose qui va me remotiver, mais non, pour l'instant, j'ai pas de chose en particulier à proposer. Peut-être un peu plus populariser peut-être des choses sur la théorie de l'évolution, qui est souvent la théorie de l'évolution, qui est une théorie qui présente la particularité d'être parfois mal défendue. Enfin, je dis pas que moi je la défends bien, hein, c'est pas ça le problème, mais les spécialistes de la théorie de l'évolution trouvent qu'elle est souvent mal défendue, y compris par les gens qui prétendent la défendre. Donc ça, c'est un cas épistémologiquement intéressant, et je vais peut-être me pencher un petit peu dessus pour l'année qui vient.
Ça revient à mon anecdote de début d'interview. Comment est-ce qu'on doit aller débattre les créationnistes? La réponse est non.
Ah oui.
Parce que on le ferait.
C'est vrai que là, oui, il y aurait aussi du travail à faire, mais effectivement, hein, les méthodes sont un petit peu les mêmes.
Et sinon, est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais dire au niveau de l'actualité de l'EZ aux auditeurs?
L'actualité de l'Observatoire Esthétique, ben là on sort de notre université d'été, hein, ce qu'on appelle Ultimate Z. On en était cette année à la 6e édition et ça s'est déroulé en plein milieu du massif de la Sainte-Baume près d'Aix-en-Provence. Et bon, il y avait quelques organisations sceptiques françaises, des gens de Toulouse, il y avait des gens de Marseille, de Montpellier. Ça a permis des échanges fructueux et des débats particulièrement et des exposés intéressants. Et ça a permis de voir un peu ce qui se faisait ailleurs que dans notre propre organisation, de voir un peu comment on aborde les choses de façon parfois légèrement différente au niveau de la pédagogie. Et c'est à refaire. On essayera d'en faire un compte-rendu dans notre newsletter, peut-être pas la prochaine, mais celle d'après.
Tu me disais qu'il y avait, avant de commencer l'interview, qu'il y avait une trentaine de personnes présentes, c'est ça?
Oui, bah cette année, voilà, on a été en fait même un peu limité par le nombre de places dans la structure qui nous hébergeait, mais c'était quand même un net regain de forme par rapport à l'an dernier, où on n'était même pas une quinzaine, donc là, je pense qu'on est reparti à la hausse. So, what are we really made of? Dig deep inside the atom and you'll find tiny particles held together by invisible forces. Everything is made up of tiny packets of energy born in cosmic furnaces. Dig.
the atoms that we're made of have negatively charged electrons whirling around a big bulky nucleus. The quantum theory offers a very different explanation of our world. The universe is made of 12 particles of matter, 4 forces of nature. It's made of 12 particles of matter, 4 forces of nature. That's a wonderful and significant story. Suppose that little things behaved very differently than anything big. Nothing is really as it seems. It's so wonderfully different than anything big. The world is a dynamic mess of jingling things. It's hard to believe. The quantum theory is so strange and bizarre. Even Einstein couldn't get his head around it. In the quantum world, the world of particles, nothing is certain. It's a world of probabilities. The quantum theory offers a very different explanation of our world. The universe is made of 12 particles of matter, 4 forces of nature. The universe is made of 12 particles of matter, 4 forces of nature. That's a wonderful and significant story. It's very hard to imagine all crazy things that things really are like, Electrons act like waves, no they don't exactly. They act like particles, no they don't exactly.
We need a theory of everything, which is still just beyond our grasp. We need a theory of everything, perhaps the ultimate triumph, of science.
Offers a very different explanation of our world. The universe is made of 12 particles of matter, 4 forces of nature. The universe is made of 12 particles of matter, 4 forces of nature. That's a wonderful and significant story.
I gotta stop somewhere. I'll leave you something to imagine.